Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Enzo Mousset. Il est référent jeune de Horizon Ille-et-Vilaine et il est venu tout spécialement justement de la région de Rennes pour être avec nous en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, on va parler de politique. Alors, je précise quand même, c'est votre première radio ce matin.
Oui.
Ça va très bien se passer. Voilà.
Oui.
Je le dis pour les auditeurs, beaucoup de jeunes qui entrent en politique ou qui sont déjà dans la politique, voilà, viennent faire leurs premières armes au micro de Bretagne 5. Je les remercie aussi. Voilà, on suit leur évolution après. Enzo Mousset, on va parler de politique, disais-je. On va parler de budget ce matin avec la partie recette du projet de loi de finances 2025 qui n'a pas été approuvée. Puisque 362 députés ont voté contre, la gauche a voté pour avec 192 députés. Si vous avez suivi le budget, est-ce que ça vous étonne ce résultat ?
Non, pas vraiment, puisque quand on regarde au final le budget, le texte qui a été voté hier, il a été totalement dénaturé, je dirais, par rapport au budget initial, puisque il a été rajouté 35 milliards de taxes et d'impôts, notamment par la gauche, qui a du coup a terminé au final à voter le texte. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que moi, ce que j'ai à dire sur ces débats, c'est ce qu'on a vu, c'est quand même une critique, nous, chez Horizon, de l'affaiblissement du débat public en général, avec beaucoup d'invectives à l'Assemblée, et des oppositions qui, au final, ne vont pas chercher à proposer des solutions concrètes pour les Français, mais aujourd'hui à faire des propositions, je dirais, électoralistes, en augmentant considérablement aussi les impôts. Et on verra ensuite sur la partie dépenses qu'est-ce qui sera proposé. Mais donc le groupe Horizon, hier, a voté contre le budget, puisqu'au final, c'était un matraquage fiscal contre les entreprises, mais également les particuliers, ce qui n'est pas bénéfique pour le développement économique de la France et même le pouvoir d'achat en fait, des Français.
Avec une équation difficile à résoudre, comment équilibrer peu ou prou ce budget, c'est-à-dire sans trop taxer des Français, mais en pouvant quand même assumer les missions qui sont premières, les missions de l'État, et c'est pas toujours évident, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, comment arriver à trouver une forme d'équilibre ?
Bah exactement, c'est toute la difficulté du budget aujourd'hui. On sait qu'il faut trouver environ 60 milliards d'euros d'économie, tout simplement. Et donc, à la base, il me semble que c'était 20 milliards d'augmentation d'impôts et environ 40 milliards de baisse de la dépense publique. Ce qu'il faut, c'est un sujet compliqué, puisque au final, baisser la dépense publique peut nous mettre aussi en difficulté. Après, je pense qu'il y a des pans de la dépense publique qu'on peut améliorer, où on peut faire des économies. Si on améliore l'efficacité des politiques publiques sur ces sujets, je pense au logement, où il me semble que la dépense publique au logement, c'est 40 milliards par an. Et on voit que la politique du logement connaît quand même certaines difficultés. Il y a peut-être des choses à revoir là-dessus. L'augmentation des impôts est aussi possible. Après, dans la limite, du raisonnable, comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Et empêche un peu la compétitivité des entreprises et baisse le pouvoir d'achat des Français également. Donc c'est un juste milieu à trouver, c'est pas simple, mais j'espère que les députés vont travailler sérieusement sur cela pour éviter, même si on a des chances de l'avoir, le 49-3.
Voilà, le fameux 49-3 qui renverrait finalement bientôt le travail fait aux oubliettes, et puis avec un texte finalement, en tout cas voté, qui passera en force, un texte qui serait le texte initial. On reviendrait au texte initial du gouvernement.
Oui, exactement. Bah, c'est ce qui est un petit peu dommage, puisque du coup, les débats qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée ne servent entre guillemets à rien, puisque... on a des chances qu'il passe en 49-3. C'est dommage aussi dans le message qu'on va renvoyer aux Français. Après, c'est une conséquence de ce qu'ils ont décidé. On voit que depuis 2022, Le grand changement dans la politique française, c'est l'absence de fait majorité, en fait. Donc, avec trois blocs à l'Assemblée, un bloc plutôt de gauche, un bloc central qui est allé maintenant même avec LR, puis le bloc dit d'extrême droite avec le RN, et puis le groupe aussi d'Éric Ciotti aujourd'hui. Mais la difficulté qu'on a, c'est de trouver des compromis. Je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de l'idée que chaque compromis est forcément une compromission, puisqu'on peut trouver des points d'accord, on peut voter ensemble sans être dans la compromission. Et on le sait, on le voit dans d'autres pays, on n'a pas cette culture en France de la coalition, du compromis. On est plutôt dans une culture de combat à l'Assemblée.
Une culture de parti, finalement.
Voilà, exactement. Une culture de parti où on est dans les petits jeux des partis également. Ce qui nous empêche au final de trouver des compromis à l'Assemblée. Et aujourd'hui, on est dans une difficulté pour le budget. Mais ça sera également des difficultés tout au long du reste de la mandature, sûrement jusqu'à la présidentielle de 2027. Sauf si on a évidemment une autre dissolution avant l'élection de 2027.
Ce qui peut être probable éventuellement, alors là on en saura un petit peu plus à l'été, au mois de juin, puisqu'il faut un an entre deux dissolutions. Voilà, ça c'est la 5e République. On parlait de la culture politique à l'instant, Enzo Mousset. Cette culture politique du compromis, et pas de la compromission, ou de la coalition, bon, ça marche dans d'autres pays européens, mais c'est pas toujours facile non plus. On voit chez nos voisins allemands en ce moment.
Oui, également. En Allemagne, on voit la difficulté également à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, de trouver un gouvernement tout simplement où tout le monde est d'accord. Ça met parfois des mois. C'est aussi une difficulté, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est dans l'objectif de travailler pour la population et des compromis peuvent être trouvés. On peut se mettre d'accord, je pense, sur des grands projets. On ne sera jamais d'accord sur tout, mais sur des détails importants. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut réduire la dette, s'occuper du sujet de la dette.
C'est la méthode, finalement.
Voilà, exactement, c'est la méthode. Mais aujourd'hui, on risque d'être en difficulté pour trouver des compromis. Et le problème, encore une fois, du 49-3, c'est qu'au niveau de l'opinion publique, ça renvoie aussi une mauvaise image, puisque au final, le gouvernement dirige, même s'il y a eu des débats à l'Assemblée, sans prendre en compte toutes les modifications des députés. Voilà,
c'est un peu dirigiste, on peut le dire comme ça, voire presque coercitif quand même. Voilà, on fait un peu fi du travail parlementaire. C'est une mauvaise image pour les Français, mais c'est aussi peut-être une mauvaise image, alors on va pas aller jusqu'à la démocratie peut-être, mais en tout cas pour le fonctionnement institutionnel.
Exactement. Aujourd'hui, je pense que la 5e République est encore à toutes ses capacités pour continuer à exister. C'est plutôt dans la façon de l'utiliser. Voilà, on peut revenir sur la dissolution également.
C'était une mauvaise chose, la dissolution.
Je pense qu'elle était malvenue, puisque après, c'est un long processus. Monsieur Macron a dit longtemps qu'il ne tirerait pas de conséquences nationales des élections européennes, puisqu'on voit dans l'histoire que les élections européennes favorisent notamment, par exemple, la liste RN aux élections européennes, bien longtemps avant 2024, avait fait des gros scores également, puisque c'est à peu près, on peut appeler ça des mid-terms, en tout cas il y en a qui les transforment comme ça dans l'opposition. Mais en tout cas, je pense que ça a été une mauvaise idée. Ce que Édouard Philippe a rappelé sur ces élections, sur cette dissolution, pardon, c'est le fait que l'erreur part sûrement du moment où Emmanuel Macron change de Premier ministre au début de l'année. Il aurait sûrement dû, je pense, garder Elisabeth Borne à Matignon pour éventuellement, après les élections européennes, faire un remaniement à ce moment-là pour montrer qu'il a compris un certain message. Mais la dissolution, on savait. Et on voit aujourd'hui qu'on est dans une situation encore plus compliquée qu'elle ne l'était avant la dissolution, tout simplement.
Avec le risque de l'impasse politique, avec un Rassemblement national qui est très fort, hein, on l'a vu lors des élections, que ce soit européennes ou législatives. Ça inquiète la jeunesse dont vous faites partie, la jeune garde politique. Est-ce que ça vous inquiète, cette montée du Rassemblement national qui à chaque élection grappille quelques voix, et là ça a été assez marqué?
Oui, je pense que c'est inquiétant parce que bon, c'est pas le il faut les écouter, en fait. Il y a 11 millions d'électeurs aujourd'hui pour le Rassemblement national au premier tour, des législatives, donc c'est le premier parti de France, ça il faut pas le nier. Ils ont des choses à proposer et s'ils font 11 millions de voix aujourd'hui, c'est que c'est pas anodin non plus.
Il y a un message des Français qui veulent
Mais je pense que ce n'est pas. Y en a qui vont prendre ça comme un vote de rejet. Je pense que c'est aussi un vote d'adhésion à des idées. Par contre, je pense que le Rassemblement national n'a pas les bonnes solutions pour répondre à ces problèmes. Et on voit aujourd'hui, votre question portée sur la jeunesse également, qu'on voit souvent, on pense souvent à la jeunesse qui est soit plutôt d'extrême gauche ou une partie de la jeunesse qui se tourne vers l'extrême droite également. Mais je pense qu'il y a une autre voie également plus modérée avec des jeunes qui aujourd'hui, notamment dans le parti Horizon, veulent proposer un projet pour la France avec Édouard Philippe, mais qui n'est pas dans la démagogie. Le but, c'est d'aller chercher les problèmes concrets, voilà, de répondre. En fait, je pense qu'on ne peut pas répondre des réponses simples à des problèmes compliqués. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on voit sur les positions du Rassemblement national ou de la France insoumise, notamment parce qu'ils sont dans l'opposition. On voit notamment sur le sujet de la réforme des retraites où M. Bardella, quand il a vu qu'il avait une chance d'aller à Matignon après la dissolution, il a commencé dans les médias à expliquer que finalement, à l'abrogation de la réforme des retraites, ils allaient y réfléchir. Et on voit aussi que c'est un jeu de posture, en fait. Dans l'opposition, c'est simple de proposer des choses qui, sur le papier, vont satisfaire les Français. Mais je pense qu'il y aura aussi des réformes compliquées à passer pour le pays qui seront bénéfiques sur le long terme, mais qui ne plairont peut-être pas aux Français. Mais en tout cas, il faudra également les faire en concertation avec eux, avec les élus locaux, parce que c'est aussi une vision qu'on a très importante chez Horizon, c'est la collaboration avec les élus locaux et les territoires.
Alors justement, les élus locaux, en ce moment, les départements se réunissent avec une inquiétude, une grande inquiétude justement autour du budget. Ces élus locaux qui alertent depuis un long moment en disant on n'arrivera peut-être pas à boucler nos budgets parce que nous, on veut bien participer à l'effort national, mais on nous en demande toujours un peu plus. Et il y a un moment où la ficelle est très tendue, elle va peut-être casser. Est-ce que là aussi, il faudra à terme avoir une forme de réforme des institutions locales, peut-être plus de décentralisation, on en parle beaucoup sur cette antenne, on va même parler d'autonomie autour de la Bretagne. Est-ce qu'il faudra songer à avoir ce côté qui tend un peu vers un fédéralisme finalement?
Jusqu'au fédéralisme, je dirais non. Par contre, moi je suis plutôt pour, et je pense que le Parti Horizon aussi, pour un peu plus de décentralisation. Un État qui se concentre sur les sujets plutôt régaliens, qui laisse plus de pouvoir aux collectivités, qui, elles, sont capables de régler les problèmes aussi par rapport aux spécificités locales. Aujourd'hui, on voit que les collectivités doivent faire un effort de 5 milliards, il me semble.
Jusqu'à 9 milliards, peut-être.
Oui, peut-être. Je pense que c'est normal qu'elles contribuent à l'effort, puisque je pense que tout le monde doit contribuer à sa part de l'effort. Par contre, il est vrai que remettre le problème de la dette publique, comme on l'a entendu parfois dans les médias, sur les collectivités territoriales, je pense que c'est une forme d'hypocrisie, puisque les collectivités font leur travail. Il y a sûrement des choses à améliorer dans leur budget, dans la façon dont elles vont dépenser. Mais c'est elles qui sont au plus proche des citoyens, et je pense qu'il faut qu'on préserve au maximum leur capacité pour agir et mettre en place des politiques publiques adaptées à nos territoires.
Alors on a vu Édouard Philippe justement, alors qui s'est lancé très tôt, on parlait tout à l'heure plus ou moins de campagne déjà électorale en marche, si vous me permettez le terme, il n'y a pas de jeu de mots, mais enfin en tout cas qui a démarré une campagne électorale dans laquelle s'est lancé très tôt Édouard Philippe en disant moi je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. On lui a reproché de partir un peu tôt, vous pourrez en dire un mot, son leitmotiv finalement c'est le terrain, c'est être au plus près du terrain justement avec des comités locaux, avec des communautés municipaux, même d'Horizon. Est-ce que c'est ça, finalement, la clé de la réussite? Est-ce que c'est le terrain?
Je pense, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut mettre en avant chez Horizon. Édouard Philippe, vous l'avez dit, s'est lancé assez tôt dans la campagne. Après, on va dire que c'était un secret pour personne. Aujourd'hui, beaucoup savaient qu'Édouard Philippe avait des ambitions. Il a préféré être clair pour avoir le temps de construire un projet en écoutant les Français. Et moi, ce qui me plaît aussi dans le parti Horizon, bah, qui est mené par Édouard Philippe, c'est cette idée de ne pas être, en tout cas Édouard Philippe, un homme qui n'est pas à réagir sur Twitter à chaque événement qui va se passer, à être dans l'invective, etc.
Il pas de surréaction finalement.
Voilà, tu préfères travailler dans le fond. Allez voir, en ce moment, il fait le tour de la France, entre guillemets, et allez voir les territoires, les élus locaux, comprendre comment va la France, essayer de trouver des solutions. Je pense que ça sera plus bénéfique sur le long terme que tweeter toutes les 5 minutes, comme on le voit certains qui vont réagir à chaque polémique, ce qui va faire du buzz, mais au final, je pense que ça contribue aussi à la mauvaise image qu'on a des politiques aujourd'hui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Édouard Philippe est plutôt apprécié dans l'opinion publique. C'est un homme d'État, c'est quelqu'un plutôt en tout cas qui a une vision avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui se met un petit peu au-dessus. Je pense que ça revient aussi à la vision. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un président qui soit moins dans le combat politique, qui soit davantage... au-dessus en fait des querelles politiques, qui puisse guider, laisser aussi le gouvernement gouverner puisque c'est son rôle, et il sera plus protégé. Voilà, c'est notamment ce qu'on a vu pendant les mandats de Macron, où le président est très exposé, mais parce que lui-même va...
Il s'expose finalement.
Voilà, exactement, il se met beaucoup en avant, mais je pense que ça le met en danger en fait politiquement. Ce n'est pas une bonne idée puisque tout revient au président et on n'a plus le Premier ministre qui doit servir, selon la 5e, un peu comme un fusible dans les moments compliqués.
Voilà, c'est souvent le Premier ministre qui prend la foudre. Hein. C'est ce que l'on dit, évidemment, au sens figuré, hein, je vous rassure. Est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir une idée de gouverner à long terme, justement dans un climat plus apaisé peut-être, qui permet de réfléchir à l'avenir du pays et à l'avenir du pays dans l'Europe. On parlera tout à l'heure de l'élection américaine, mais est-ce qu'il faut avoir peut-être plus d'apaisement et cette vision à long terme dont on reproche souvent aux politiques de ne pas l'avoir ou de ne plus l'avoir ?
C'est tout le problème aujourd'hui avec cette assemblée qui est divisée en 3 blocs, c'est qu'on est souvent dans des postures de court terme, avec des propositions qui, sur le long terme, ne seront pas bénéfiques pour les Français. Nous, notre slogan dans le Parti Horizon, c'est « voir loin pour faire bien ». Donc en fait, c'est vraiment cette idée qui me plaît aussi chez Horizon, c'est d'essayer de voir plus loin, d'essayer de proposer des politiques, puisque la politique, c'est en vérité le temps long. Donc de proposer des projets, et on dévoilera notre programme petit à petit. On a aussi mis en place, le parti a dévoilé la semaine dernière, les 34 secrétaires nationaux qui ont en charge chacun des thématiques sur lesquelles on va travailler avec les militants, avec les jeunes, puisque dans le parti, on n'est pas là seulement pour coller des affiches, on est là aussi pour participer à la construction d'un projet. Et donc, le but étant de proposer des réformes, mais qui vont aider la France sur le long terme et pas des petites propositions de court-termistes qui, au final, vont mener la France à rester dans l'instabilité.
Voilà, donc de la stabilité et l'exercice de la politique dans un climat serein. Vous parliez de réforme à l'instant, Enzo Mousset. Il y a une réforme qui va peut-être interpeller les jeunes dont vous faites partie. C'est cette réforme de l'éducation nationale qui a été proposée par la ministre de l'Éducation nationale, Anne Jeantet, qui a entre autres parlé d'une réforme du bac avec des épreuves de français, mais aussi épreuves anticipées de mathématiques qui va être instaurée pour tous les élèves en première. C'est une bonne idée de remettre un petit peu au cœur de la machine les savoirs.
Je pense que c'est important puisqu'on voit que sur les matières c'est des matières fondamentales, donc le français, les mathématiques, et on voit notamment dans le classement PISA fait par l'OCDE que de 2018 à 2022 on a perdu, il me semble, 21 points au classement sur le sujet des mathématiques. Donc remettre cette matière, là ce serait dans le cadre de la première, avoir un examen sur cette matière, je pense pas que c'est une mauvaise idée. Ça permettra également d'évaluer le niveau en mathématiques des Français, et je pense que le français et les maths, c'est quand même une base au lycée qu'on doit avoir. Donc je pense que c'est une bonne idée sur le principe.
Avec aussi cette réforme qui va amener les jeunes à pouvoir entrer en secondaire, si et seulement si ils ont le brevet des collèges. Ça aussi, oui. C'est nouveau.
Oui, c'est nouveau. J'ai vu ça hier également. Sur le principe, je pense que c'est une bonne idée aussi, puisque des jeunes qui ne seraient pas prêts à continuer à passer les échelons, je pense qu'on les met en difficulté, en fait. Donc voilà, il y a aussi la mise en place peut-être des classes prépa secondes, il me semble, ce qui permettrait de ne pas forcément redoubler, mais d'avoir une année où on va se préparer à rentrer en seconde, suivant ce qu'on veut faire ensuite. Mais sur le principe, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, après à voir comment ça sera appliqué dans les faits.
Voilà, à suivre donc. On est dans un climat social difficile. On parlait tout à l'heure du vote massif pour le Rassemblement national lors des élections, avec des Français qui ont interpellé sur le volet social en particulier, sur le volet sécurité également. Sur le volet social, on le voit depuis quelques jours avec des secteurs qui vont souffrir. C'est le ministre de l'Industrie lui-même qui l'a dit. On pense à la distribution, l'immobilier, l'automobile, la chimie également. La fermeture d'usines, on pense évidemment à Michelin, à Vannes et à Cholet. Là aussi, il va falloir repenser la politique industrielle de la France pour éviter une saignée sociale. On parle quand même de la perte de plus de 100 000 emplois, voire 150 000. Il va falloir repenser à long terme.
On a un sujet là-dessus. Hein. Le chômage aujourd'hui à 7,3%, il me semble. Il risque de passer environ à 8%. Donc on est quand même loin de l'objectif du plein emploi. Le plein emploi, pardon. C'est sûr que c'est des sujets qui sont en plus tendus, puisqu'on peut avoir des crises sociales qui arrivent avec ces sujets-là.
Il y a déjà des grèves de prévues, on pense à la SNCF sûr. Dans un autre domaine. Là, c'est plus pour préserver SNCF Fret. Mais voilà, ces crises, elles arrivent.
Oui, je pense que c'est important qu'on les prenne en compte. Après, aujourd'hui, on a des difficultés au niveau des financements des entreprises également. Je pense qu'il faut réindustrialiser la France. Voilà, il ne faut pas qu'on perde toutes nos industries, puisque c'est aussi une condition de notre souveraineté. Aujourd'hui, si on perd toutes nos industries, on va être obligé de, comme on l'a déjà beaucoup fait, de délocaliser énormément et de se rendre dépendant de certains États pour obtenir des produits. Il me semble aussi qu'on a différents problèmes, que ce soit sur les munitions. Mmh. Si on parle un peu d'industrie de défense après.
Et on pense à la guerre en Ukraine.
Également, voilà.
Également.
Mmh. Et suite à l'élection de Trump aussi aux États-Unis, on voit que je pense que l'Europe, faut que l'Europe prenne un peu plus d'indépendance. C'est un moment qu'elle doit saisir. On ne l'a pas saisi en 2016.
C'est une bonne chose pour l'Europe, finalement. Cette élection de Donald Trump, vous me donnez une transition toute trouvée. Voilà, l'Europe, on a l'impression qu'elle ronronnait un peu. Bon, il y a eu cet éveil brutal avec la guerre en Ukraine. Et on pourrait éventuellement parler de ce qui se passe au Proche-Orient également. Finalement, Trump arrive en disant, voilà, moi, je ferme le robinet de l'OTAN. Ou vous payez, ou je ne vous défends pas. Finalement, c'est un peu un électrochoc pour nous.
En tout cas, on peut le prendre comme ça. On peut se dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense que l'élection de Trump est plutôt une mauvaise nouvelle pour le monde. Mais en tout cas, ça peut permettre à l'Europe de réellement prendre son indépendance. Nous, à Horizon, on est pour une France forte dans une Europe forte. Voilà. Mmh. On est pour une Europe forte avec une France qui garde sa souveraineté dans l'Europe, puisque c'est relativement important de garder son pouvoir de décision. On n'est pas pour une Europe, enfin, en tout cas moi personnellement je ne suis pas pour une Europe fédérale, et je sais que le parti non plus, mais aujourd'hui on doit être en capacité de s'émanciper. On voit aussi qu'il y a des divisions profondes hein, au sein de l'Europe. L'élection de Trump renforce les populistes de droite européens comme Giorgia Meloni, Viktor Orban, etc., Robert Fico il me semble également. Donc il faut qu'on soit unis au sein de l'Union européenne pour, en fait, tout simplement peser sur les affaires mondiales. Si on n'est pas unis, on ne pourra pas le faire.
Avec, justement, pour en revenir à l'économie, la menace de la Chine hein, et de son industrie toute puissante. On pense aux voitures électriques aujourd'hui. Il faut faire du protectionnisme aussi sur notre industrie.
Le protectionnisme, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on soit en capacité. Le marché européen est quand même un marché très puissant. Donc il faut qu'on se rende compte de la capacité qu'on a avec notre marché européen, plus de 500 millions de consommateurs. On a la chance d'avoir un grand marché. Il faut qu'on prenne un petit peu plus notre indépendance par rapport aux États-Unis. Mais bien sûr, on voit qu'il y a la montée partout de grandes puissances qui ne sont pas sur nos modèles de, également de démocratie occidentale, que ce soit l'Inde, la Chine ou même l'impérialisme russe, etc. Donc on a un sujet là-dessus où on va avoir besoin d'une Europe forte pour continuer à avoir notre mot à dire dans les affaires du monde, tout simplement.
On parlait de la guerre en Ukraine à l'instant. Faut continuer à aider l'Ukraine. On a compris que les États-Unis allaient essayer un petit peu à marche forcée d'imposer un processus de paix. On peut s'en réjouir pour arrêter la guerre, mais après la guerre, il y a les conséquences. C'est la Russie qui gagne à la fin, pour reprendre une formule plus employée au foot et avec une autre nation. Et ça, c'est dommageable pour la démocratie et pour l'Europe.
Oui, je pense que le combat ukrainien n'est pas seulement un combat pour l'Ukraine, en fait. Derrière le combat de l'Ukraine, je pense qu'il y a le combat de la démocratie. Parce que si on laisse faire Poutine, tout simplement, on met en danger nos démocraties européennes, puisqu'il aura porte ouverte pour continuer. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc il pourra peut-être continuer. Et on envoie un message et un signal de faiblesse, tout simplement, de l'Europe qui ne sait pas défendre. Puisque l'Ukraine n'étant pas dans l'Union européenne, les Ukrainiens ont un modèle de vie très similaire au nôtre, qui n'est pas du tout celui des Russes. Ils sont plutôt proches, en tout cas ils vont vers le chemin, même si c'est un pays qui a connu beaucoup de corruption, ils vont vers l'amélioration sur ces sujets-là. C'est un pays qui se rapproche beaucoup de nos valeurs, et donc je pense que c'est important qu'on continue à les défendre, même si bien sûr, si les États-Unis retirent totalement leur aide, il faudra être clair, ça sera très compliqué de les défendre, puisque ça demandera des gros efforts. Et ça aura également des répercussions pour le pouvoir d'achat en France qui seront sûrement terribles. Donc c'est un sujet.
Avec ce mot « guerre » qui a été beaucoup prononcé ces trois dernières années avec la guerre en Ukraine, c'est presque trois dernières années, est-ce que ça interpelle le jeune que vous êtes en politique, ce mot « guerre » voilà, on parle quand même de conflit, on parle quand même d'une Europe fragile, justement, vous y faisiez référence face à Vladimir Poutine et tout, sa toute puissance, qui se fait aider par la Corée du Nord, hein, faut quand même le noter également. Et puis on a ces jeunes qui ne veulent pas aller à la guerre en Ukraine, on va les chercher, on les chasse un peu, si vous me permettez le terme, il est fort, mais il est réel, pour qu'ils aillent au front, ils n'ont pas envie de se battre. Est-ce que ça en dit long aussi sur le fait que la jeunesse ne veut plus de guerre aujourd'hui?
Bon, je pense, après, je ne pense pas que la jeunesse a été dans l'histoire à un moment forcément pro-guerre. Il y a toujours eu des personnes qui ne voulaient pas, et on peut parfois les comprendre, partir au combat. Mais aujourd'hui, la difficulté qu'on voit, c'est qu'on a la guerre revient, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient. On a toujours des difficultés, des conflits qui pèsent sur les échanges mondiaux également, qui touchent beaucoup notre économie et qui fracturent nos sociétés, en fait. Hein. On voit le conflit au Proche-Orient fracture la société française, et c'est évidemment dommageable.
Donc voilà, essayer d'apaiser là aussi. Un dernier mot, voilà, donc pour conclure ce premier entretien, cette première radio. Aujourd'hui, c'est quoi le rêve d'un jeune qui entre en politique, qui rentre à Horizon? En quelques mots, il nous reste une petite poignée de secondes.
Le rêve, bah, c'est de contribuer à la France, tout simplement, d'aider la France, d'essayer de s'engager pour proposer un projet. C'est un travail collectif, voilà. Plus il y a du monde à nous rejoindre, plus on sera en capacité de proposer quelque chose de grand et de fort qui représentera tout le monde. Donc on compte sur tout le monde pour rejoindre le parti Horizon.
Enzo Mousset, référent jeune de Horizon, il est vilain, était avec nous ce mercredi matin pour l'interview politique. Merci d'être venu à notre micro. Première radio, vous voyez, ça s'est très bien passé.
Voilà. Merci à vous et merci encore pour votre invitation.
Très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.